Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Après Vibra SOS tous les samedis entre 12h et 13h, vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 10 décembre. Nous allons parler de l'actualité scientifique sur Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Il y a la rediffusion également mardi matin, donc je vous souhaite une bonne matinée ou un bon appétit, tout dépend à l'heure où vous nous écoutez, bien évidemment sur l'antenne de Graphite. Nous sommes donc le 10 décembre, c'est la remise des prix Nobel à la suite de la révélation des lauréats sur plusieurs jours vers octobre en général. Donc on en avait parlé de ces prix Nobel en octobre. Et donc le 10 décembre, c'est la remise des prix Nobel en 1582, le 10 décembre, du fait de l'adoption du calendrier grégorien par la France. Eh bien, ce jour du 10 décembre 1582, comme les 9 suivants, n'ont pas existé. Le calendrier est passé du dimanche 9 décembre au lundi 20 décembre 1582. Donc ne cherchez pas ce qui s'est passé pendant cette période-là, ça n'existe pas. Le 10 décembre 1799 en France, eh bien, il y a la loi du 19 primaire de l'an 8 qui consacre en fait les étalons prototypes en platine du mètre et du kilogramme comme des étalons définitifs des mesures de longueur et de poids dans toute la République. Ce sont donc des unités standards qui ont été mises en place en 1799, des unités standards donc de longueur pour le mètre et de masse pour le kilo. En Haute-Égypte, le 10 décembre 1902, c'est la remise en service de l'ancien barrage d'Assouan. Et enfin, le 10 décembre 1993, c'est la fin des travaux du tunnel sous la Manche qui va donc relier pour la première fois sans transport par bateau la France et le Royaume-Uni. Il sera officiellement inauguré au printemps suivant, notamment par la reine Elisabeth II d'Angleterre et le président de la République française de l'époque, François Mitterrand. Naissance le 10 décembre 1907 de Daniel Barbier, astronome français. En fait, ses travaux d'études portent sur les atmosphères stellaires et les éclipses lunaires. Il a travaillé sur des phénomènes qui se produisent dans la haute atmosphère, notamment les aurores boréales. Il a travaillé dessus, cet astronome français Daniel Barbier, qui est donc né le 10 décembre 1907. Décès le 10 décembre 1831 de Thomas Johann Seebeck, physicien allemand, qui découvrit l'effet qui a porté son nom, l'effet Seebeck, en 1821. Et il rencontra Goethe, avec qui il travailla sur la théorie des couleurs et la sensation lumineuse. Et c'est ainsi qu'il étudia le rayonnement thermique des différentes lumière, de la lumière blanche, donc les différents éléments du spectre de la lumière blanche. Et il découvre donc l'effet Seebeck. C'est une différence de potentiel qui apparaît à la jonction de deux matériaux lorsqu'ils sont soumis à un gradient de température. Et cet effet est à la base de la génération d'électricité par effet thermoélectrique en 1821. Il travaille sur ça et ces applications, on peut encore les utiliser aujourd'hui. Donc ces matériaux qui sont soumis donc à un gradient de température quand il y a une différence de potentiel. C'est totalement intéressant. Thomas Johann Seebeck, qui est donc décédé un 10 décembre 1831. C'est la dernière émission de cette année 2022. Une année riche encore en actualité scientifique, bien évidemment, avec bien sûr pas mal de découvertes qu'on a évoquées tout au long de ces émissions sur l'antenne de Graphite. Et puis on voit très bien qu'on va aussi s'orienter vers, là encore, pas mal de recherches d'un point de vue médical. On en a parlé pas mal. Bien sûr, au niveau de l'énergie, qui est un vrai défi, au niveau, bien sûr, des constats de plus en plus avérés au niveau du des règlements climatiques, des conséquences bien évidemment qu'il y aura, que l'on va subir bien sûr. On a parlé aussi des nouvelles technologies, de tout cet environnement d'objets connectés également, de tout ce qui va être au niveau spatial également. On a parlé pas mal de ça au niveau de l'actualité scientifique tout au long de cette émission. Alors pour cette dernière émission de l'année, on va rester toujours sur ce même principe de la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous avez quand même pas mal de sites, pas mal de revues qui parlent de façon totalement adaptée de l'actualité scientifique et donnent des petites informations comme ça assez intéressantes. Et alors notamment dans Science et Avenir, il y a pas mal de petites brèves qui sont proposées et elles sont assez intéressantes parce qu'elles abordent pas mal de sujets et elles sont très très courtes, comme c'est des petites brèves, très courtes mais parfois illustrées et très souvent insolites. Par exemple, il y a une série d'expériences qui montrent que les femelles moustiques tigres qui transmettent notamment la fièvre jaune, le virus Zika ou le paludisme, eh bien ces femelles sont particulièrement attirées par les odeurs corporelles qui présentent des taux élevés d'acide carboxylique. En fait, c'est un sous-produit qui est fabriqué par des bactéries qui vivent dans les pores de la peau. Et donc ces bactéries produisent cet acide carboxylique qui est donc détecté par les femelles moustiques tigres, celles qu'ils piquent. Et justement, certaines peaux sont un petit peu des aimants à moustiques. Donc il se peut que vous soyez concerné par cela, faites attention. On en a parlé également, c'était il y a 15 jours, je vous avais donné cette petite brève qu'on évoquerait aujourd'hui, c'est ce dé. Un dé à jouer qui a été trouvé, et c'est un dé à jouer de tricheur, qui a été retrouvé dans l'enceinte de la villa gallo-romaine de Majorois, on est en Belgique. En fait, ce petit dé était creusé et rempli d'une petite quantité de mercure. C'était un dé en os qui permettait à son propriétaire de forcer un petit peu la valeur de son choix à une époque où les jeux de dés étaient très populaires. Et ce qui est assez intéressant, alors vous avez dans Science et Avenir l'image de ce petit dé qui est totalement insignifiant, mais en fait, il y avait une fouille qui était organisée pendant une sortie scolaire. Et il y a un enfant qui a brisé par inadvertance ce dé. Et en fait, on a pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait une petite quantité de mercure dans ce dé qui était creusé à l'intérieur. Et c'est là qu'on s'est donc rendu compte que ce dé truqué au mercure, eh bien, était déjà utilisé à l'époque gallo-romaine. Et ça avait été découvert totalement par hasard. Et ça, c'est aussi assez étonnant, bien évidemment. Pardon. Il y a une société bretonne qui s'appelle Emarina qui a obtenu justement la possibilité de pouvoir utiliser un produit développé par cette société pour la greffe de rein. Et ce produit s'appelle Hemo2Life. Il a été fabriqué à partir de l'hémoglobine, du ver marin, qui est cette hémoglobine 40 fois plus oxygénante que notre propre hémoglobine. Et en fait, ça améliore significativement la conservation des greffons, la survie des patients dans les essais cliniques. Et cette société bretonne espère convaincre l'agence de la biomédecine d'inscrire justement ce produit Hemo2Life dans les protocoles de greffe standard. Ça a été autorisé pour la greffe de rein et il y aurait l'idée de pouvoir généraliser tout ça. Et donc, on utilise du sang de ver marin pour pouvoir justement améliorer quelque part les greffes les greffes médicales. Et c'est aussi assez inédit et assez intéressant de pouvoir trouver justement des thérapies ou des subterfuges assez originaux pour pouvoir améliorer justement. On sait très bien que les greffes sont assez compliquées parce qu'il y a un risque de rejet. Et donc du coup, si on peut améliorer les conditions pour pouvoir faire en sorte que la greffe puisse prendre, entre guillemets, eh bien c'est tant mieux. Toujours au niveau médecine et toujours au niveau France, on en avait parlé il y a quelques temps de cette entreprise française Carmat qui avait développé le cœur bioartificiel. Eh bien cette entreprise a annoncé avoir obtenu les autorisations pour reprendre les implantations de son cœur bioartificiel en Europe. Il y a eu une interruption qui avait eu lieu en 2021 due à des défauts de qualité sur deux composants de cette prothèse. Il y avait une première commercialisation en juillet 2021 qui avait eu lieu. 5 personnes ont l'insuffisance cardiaque terminale en Allemagne et 2 en Italie qui avaient reçu l'organe artificiel. Il y a eu donc un arrêt qui avait été fait parce qu'il y avait eu des dysfonctionnements. Ça reprend désormais et Carmat annonce donc avoir obtenu les autorisations pour reprendre les implantations de son cœur bioartificiel. Donc on suivra aussi cette actualité. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolé, c'est le temps en fait. On suivra bien sûr l'actualité de ce cœur bioartificiel. On en avait déjà parlé il y a quelques années, hein, donc en 2020-2021, on avait parlé de ça, c'était un peu l'actualité du moment, et donc ça revient. Donc en 2023, je pense qu'on aura pas mal encore de communiquer au niveau de cette entreprise française Carmat pour voir un petit peu l'amélioration de cette technologie. Au niveau des animaux, on a découvert qu'il y avait une espèce qui était un peu proche des manchots, qui s'appelle les gourfous huppés, et ils ont un curieux comportement avec leurs œufs. En fait, ils pondent 2 œufs à quelques jours d'écart chaque année. Et le premier, il est plus petit. Et on s'est rendu compte qu'il était soit écrasé, soit éjecté du nid carrément avant l'arrivée du second, qui lui est plus gros. Et il y a des analyses qui révèlent que, en fait, il s'agit véritablement d'un choix de ces manchots. C'est-à-dire qu'ils ont une incapacité à pouvoir nourrir 2 oisillons. Et ça pousse les parents, en fait, à ne garder que le plus gros. Et donc, ils se débarrassent du petit. Et du coup, ça a été assez... assez étonnant, c'est l'université de Nouvelle-Zélande qui a découvert cela et qui a découvert ce comportement justement qui a été observé par, sur ces manchots. Ils se débarrassent du petit œuf et ils gardent que le second. Je ne sais pas, c'est assez étonnant. C'est ça, c'est la nature. Allez, on continue de feuilleter l'actualité scientifique dans cette émission et on écoute aussi un peu de musique parce que ça fait du bien.
Jour de semaine, le temps passe avec lenteur. Tu es employé, ouvrier ou bien chômeur. Cadre moyen, cadre sup ou bien directeur. Mais quel est donc dans ton regard cette lueur? Tu penses au samedi soir qui t'attend. Tu savouras l'avance ce moment. Ton cœur vacille tout d'un coup en repensant à cette fille qui t'a fasciné en dansant. Tu penses au samedi soir qui t'attend. Et tu savouras l'avance ce moment. Ton cœur vacille tout d'un coup en repensant à l'Olympique et ses joueurs en bleu et en blanc. Fin de semaine, on se déchaîne. On n'est plus les mêmes, on fait du boucan. Fin de semaine, on se déchaîne. Peu de problèmes, on est vous les gants. L'entière se met à palpiter. Plus de frontières, de barrières entre quartiers. Les Marseillais se mettent le feu volontiers. Semblent ne plus jamais vouloir se quitter. Les bistrots sentent le pastis et le tabac. Ça fait du mal mais le week-end on oublie ça. On se sent bien, on est heureux et ça se voit. Lundi c'est loin pour l'instant, on n'y pense pas. Zou, pressons la vie et buvons ensemble le jus. Zou, installons-nous un peu partout au coin des rues. Zou, régalons-nous de voir tous ces gens qui remuent. Profitons pendant deux jours sans retenue. Fin de semaine, on se déchaîne. On n'est plus les mêmes, on fait du boucan. Fin de semaine, on se déchaîne. Peu de problèmes, on est beaux les gars. Allez.
I need some fun like the human race. Splash, slap the door, go to the dance floor. I slap the door, go to the dance floor. I've got a feeling, I've got a style in my mind. I've got a beat, I've got a groove. I've got a bling bling on my shoes. A body with you, all the one I do. It's Saturday's night, you're on the boo.
Laissons la vie et buvons ensemble le jus. Zou, installons-nous un peu partout au coin des rues. Zou, régalons-nous de voir tous ces gens qui remuent. Zou, et profitons pendant deux jours sans retenue. Fin de semaine, on se déchaîne. On n'est plus les mêmes, on fait du boucan. Fin de semaine, on se déchaîne. Peu de problèmes, on est boule les gants. Fin de semaine, on se déchaîne. On n'est plus les mêmes, on fait du boucan. Fin de semaine, on se déchaîne. Peu de problèmes, on
fin de semaine, c'était Papette Jarrett sur l'antenne de Graphite. Ils ont raison, nous sommes samedi, c'est bien la fin de la semaine. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h pour Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur graphite.net, sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et bien sûr toute l'actualité de Graphite essentiellement sur Instagram, sur les réseaux sociaux. En bref, c'est aussi sur Facebook et le site également de Graphite, graphite.net. qui vous permet de récupérer les podcasts. Hein, si vous souhaitez écouter les émissions où vous soyez, n'hésitez pas, bien évidemment. On continue à regarder et à découvrir ces petites brèves de Science et Avenir, et avec cet article qui est assez intéressant, mais quelque part assez, impressionnant. On va voir ça. Ça se passe à l'université Stanford aux États-Unis. Il y a des petites boules de neurones qui sont d'origine humaine, qui ont été cultivées in vitro, et après on les a implantées avec succès dans le cerveau de rats qui étaient nouveau-nés. Il y a près d'une centaine de rongeurs qui ont vécu jusqu'à un an avec cette espèce de cerveau un peu chimérique, parce que justement ces boules de neurones, ces espèces de morceaux de cerveau, si je peux dire, ils ont ils ont survécu à la greffe et ils se sont développés dans le cerveau des rats, et ils ont même essayé de tisser comme des connexions, des réseaux avec les circuits neuronaux des rats. Donc cette partie qui est humaine, on l'a intégrée dans le cerveau des rats, et en fait ça fonctionne. Enfin, quand on dit que ça fonctionne, ça prend au niveau de la greffe, et il y a des véritables connexions qui se mettent en place, à tel point que ces mini-cerveaux, entre guillemets, qui sont implantés dans la zone du cortex qui reçoivent les signaux au niveau des moustaches, eh bien, ces mini-cerveaux pouvaient être activés électriquement sur demande en soufflant notamment sur les moustaches des rats. On s'est rendu compte de ça. Alors, quel est l'objectif ? En fait, c'est la question qu'on se pose. À quoi ça sert ? L'objectif de cette expérience un peu troublante, eh bien, c'est de se servir des rats comme laboratoire in vivo pour le développement de ces espèces d'organes cérébraux modèles de maladies neurologiques humaines. Parce que in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, c'est pas possible, dans le sens où la croissance de ces petits cerveaux, elle est assez limitée, et ça complique un petit peu l'étude des pathologies que l'on souhaite justement essayer d'approfondir. Et du coup, le fait de pouvoir intégrer ces morceaux de cerveau humain dans le cerveau des rats et voir que ça fonctionne, ils sont restés un an, ça a poussé dans le cerveau des rats, et pendant un an ils ont pu vivre avec, ça permet justement de pouvoir étudier sur la durée et dans des conditions un peu plus réalistes, on va dire, entre guillemets, et d'avoir des informations beaucoup plus importantes. Et ça, voilà, c'est ce qui a été mis en place par l'université Stanford aux États-Unis. Je trouve que c'est assez troublant. Quelque part, on sait très bien que de toute façon, on en parle assez régulièrement dans cette émission, les travaux sur le cerveau sont bien sûr des pistes de recherche qui sont exploitées en ce moment, parce que c'est encore un domaine assez inconnu, avec bien sûr des objectifs totalement importants que l'on souhaite atteindre pour les maladies neurodégénératives, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, bien évidemment. Donc il faut qu'on puisse en comprendre un petit peu plus comment fonctionne le cerveau. Et avec ce genre d'expérience, eh bien, ça nous donne les conditions nécessaires pour pouvoir avoir des études sur la durée. Donc c'est totalement intéressant. Et justement, il y a des neurones cultivés en laboratoire qui ont été capables d'apprendre à jouer à une version simplifiée de Pong. Pong, vous savez, c'est ce célèbre jeu vidéo assez rudimentaire de tennis. Hein. Ça date des années, fin des années 70, il me semble. Et c'était assez intéressant parce que c'est l'université d'Australie qui a travaillé là-dessus. L'idée, c'était de chercher d'instinct à essayer de minimiser le côté imprévisible de leur environnement, et donc les cellules ont pu envoyer des signaux électriques pour déplacer la raquette au bon endroit et stabiliser ainsi leur environnement. C'est totalement intéressant de voir cette espèce d'organoïde cérébral qui apprend à jouer à ce jeu assez rudimentaire, mais qui nécessite quelque part une action-réaction et une analyse. Ça a été mis en place donc en Australie. On n'en sait guère plus, mais ça sera véritablement quelque chose qu'il faudra creuser par la suite pour voir un petit peu comment cela s'est mis en place concrètement. Au niveau des voitures, il y a une nouvelle batterie lithium-ion à haute densité d'énergie utilisable dans des véhicules électriques qui a pu être rechargée à 70% en un temps record. Ce temps record, c'est 11 minutes pour recharger une voiture électrique. Alors effectivement, 11 minutes, c'est quand même assez génial. La performance tient à l'incorporation de feuillets de nickel qui vont permettre de réguler de façon assez fine la température à l'intérieur, même de la batterie, qui est aussi beaucoup plus compacte. Donc c'est aussi intéressant, à la fois gain de temps et gain de place. Et c'est vraiment quelque chose qui nous vient, alors ça nous vient de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, mais ce qui va permettre justement d'avoir là encore des nouvelles avancées technologiques. On sait très bien que pour les véhicules électriques, l'un des défis les plus importants est la recharge des batteries, l'autonomie de ces batteries. Et donc du coup, si on arrive à avoir 11 minutes pour pouvoir recharger un véhicule électrique, ça devient un argument commercial assez intéressant, bien sûr. En chimie, et là ça nous vient toujours des États-Unis, pour être recyclé, il y a différents types de plastiques qui doivent en principe être séparés. Eh bien, il y a des chimistes américains qui développe une technique qui permet de traiter chimiquement ces mélanges. Les mélanges, ça peut être des bidons de lait, ça peut être des emballages alimentaires, ça peut être des tasses à café jetables et ainsi de suite. Des catalyseurs les dégradent d'abord en différents composés, puis en différentes molécules, pardon. Et ces molécules, elles sont transformées par des bactéries du sol qui ont été identifiés. On a ces bactéries, on va leur donner ce nom de Pseudomonas putida, et elles vont donc, avec ces molécules, fabriquer et transformer tout ça en un seul composé qui va servir à fabriquer du nylon biodégradable, notamment, parmi d'autres choses. C'est assez intéressant parce que c'est une vraie technique pour pouvoir recycler des mélanges de plastique qu'on n'avait pas encore totalement bien pu maîtriser au niveau de la chimie, et là c'est une découverte assez intéressante. Enfin, dernière brève de Science et Avenir, cette espèce invasive de fourmis d'Amérique du Sud qui a été détectée pour la première fois en France métropolitaine, essentiellement près de Toulon dans le Var. Cette fourmi, c'est la fourmi électrique. Elle est réputée pour sa morsure douloureuse et c'est pour ça qu'on l'appelle la fourmi électrique. On a déjà affaire à une super colonie. Donc elle est là depuis plus d'un an, c'est ce qu'explique Olivier Blight, le chercheur à l'université d'Avignon, qui est donc l'auteur de cette découverte, la découverte de cette fourmi électrique qui a donc débarqué dans le Var. Ça peut avoir des conséquences assez importantes, bien sûr, pour la suite, bien évidemment. Allez, encore un peu de musique sur l'antenne de Graphite, et puis on continue à feuilleter l'actualité scientifique.
La limite est vague, 1000 visages ou une plage de sable. L'estacade est ma colonne vertébrale, et ces quelques promeneurs assemblés en petits tas de couleurs feront une belle carte postale. 1000 visages ou une plage de sable. La marée monte. Rythme de mes sauts d'humeur, elle me lâche le bout du menton, et lorsqu'elle redescend dans ma barbe, elle laisse des carcasses démaquillées, des bouts d'épave au sous du lit recouvertes de mousse entérite, des filles qui reviennent défigurées en rigolant, d'une marée trop arrosée, mille visages ou une plage de sable, mille visages ou une plage de sable, mille visages ou une plage de sable. Faut remuer les pots et glousser dans les bistrots de la côte, décrocher les enseignes jubilaires et les remplacer par mes petits os. Pour faire comme des touches de piano, ça nous changera des néons fluos sous lesquels ta viande paraissait belle. Et les coups de poing partaient tout seuls aussi vite que des amuse-gueules. Mes visages ou une plage de sable, enterre-moi pour rigoler, de la tête aux pieds. Je peux respirer dans les bulles, je peux bricoler avec du brol, un équipement de plongée. Tu peux compter jusqu'à 3000 lorsque la marée m'aura drainé. Tu me retrouveras souriant dans un accoutrement ridicule, avec un morceau dans la tête de la compagnie créole. Mille visages ou une plage de sable. Les filles délaissées par la beauté peuvent venir se blottir dans ma suite. Je les ferai trembler dans mon bunker, et ça se prolongera dans mes transats, dans l'eau qui stagne de mon nombril. Au mini-golf, je les ferai tomber au trou le plus difficile. elles seront marquées de mon souvenir. Comme un coup de soleil qui insiste, 3-4 jours après les vacances. Mille visages ou une plage de sable, alors je leur ai dit: j'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. J'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. J'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. J'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. C'est embêtant ce soleil qui pétille mes pupilles, qui croustille mes cils et qui croque mes sourcils. Le soleil étant froid avec mes airs de j'y touche que dalle, le cortège de crabes me démange. Les bras et les jambes et les promeneurs du dimanche me refont une beauté avec leurs petits pieds. Je laisse des bouts de verre traîner avec l'intention de blesser les chiens qui ne sont pas lâchés. Et les gros déguisés en fierté, les cerfs-volants peuvent claquer au vent. Ce sont mes invités. Venez saigner mes tympans, les seaux retournés sur la plage. Sans l'acné de mon visage, c'est le lendemain de la veille. Et j'émettrai à trier, j'attends la douche qui réveille. Je l'ai salé, je l'ai salé. Mille visages, une plage de sable. Dans leur plan d'architecte, ils me réaménagent en cinéma de quartier. Ils veulent me retrousser la mer, me saigner à ciel ouvert, pour dresser leur écran géant avec tous les soirs de grands visages projetés en noir et blanc. Mille visages ou une plage de sable. Mille visages ou une plage de sable.
Mille visages ou une plage de sable. C'était Karl et les hommes boîte sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h et le mardi matin pour la rediffusion à 10h. Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Pour cette dernière émission de l'année, on va parler des GPS, ces systèmes de géolocalisation. Il y a notamment Galileo, et qui peuvent déterminer la position au centimètre près dans des conditions idéales. Ils utilisent pour cela le principe de la triangulation. Et en fait, on se base sur le signal émis par des satellites en orbite. Mais en milieu urbain, les bâtiments peuvent bloquer, peuvent réfléchir le signal et réduire la précision à plusieurs mètres. La géolocalisation n'est donc pas assez fiable pour certains usages. Il y a des chercheurs hollandais qui ont mis au point un nouveau système qui s'appelle Super GPS. Comme ça, au moins, ils ne se sont pas compliqués pour chercher un nom. Super GPS. Et ce nouveau système permet de géolocaliser en ville avec une précision de l'ordre d'une dizaine de centimètres. C'est assez intéressant. Leur article a été publié dans la revue Nature. C'est dire que c'est quand même très important. Et cet article détaille comment réutiliser le réseau de télécommunications mobile en tant que système GPS. Donc Super GPS utiliserait les antennes mobiles qui sont déjà en place. Et les satellites GPS contiennent chacune une horloge atomique afin de rester synchronisée. Et avec ce super GPS, eh bien une seule horloge atomique suffira à synchroniser les signaux des antennes grâce aux liaisons en fibre optique. Et pour résoudre le problème du signal réfléchi ou qui peut être bloqué par les bâtiments, eh bien leur système utilise une bande passante très large. Et en réutilisant donc le réseau mobile, les chercheurs ont pu découper le signal sur des bandes de fréquences limitées très proches de celles utilisées par les smartphones. Et ce super GPS offre ainsi un positionnement de l'ordre donc du décimètre, donc une dizaine de centimètres, c'est quand même assez intéressant au niveau de la précision, et offre aussi une synchronisation à moins d'une nanoseconde, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'instant réel. Outre une précision accrue pour les mobiles, eh bien ce réseau serait important pour les communications quantiques, donc c'est sur un certain niveau d'utilisation de ces GPS. Et puis, bien sûr, pour améliorer la fiabilité de la navigation des voitures autonomes en ville, bien sûr, parce que si elles sont autonomes, elles se dirigent donc toutes seules, il vaut mieux qu'elles aient quand même une précision au niveau de leur déplacement assez forte. Et ce dispositif serait donc capable de pouvoir répondre à cette contrainte. Et c'est ce super GPS donc développé par des chercheurs hollandais. Et vous avez quelques articles hein, qui sont un petit peu dans la presse généraliste, on va dire, qui vous permet d'expliquer un petit peu en détail avec des schémas. C'est intéressant. J'ai vu ça dans Le Point notamment, qui explique voilà, comment fonctionne ce dispositif. Mais du coup, c'est assez intelligent parce qu'on utilise un réseau déjà d'antennes mobiles qui sont un petit peu réparties sur l'ensemble des grandes communes, des agglomérations. Donc, utiliser ce dispositif qui est déjà mis en place, c'est assez malin et assez performant aussi, apparemment. On va également, si j'arrive à récupérer mon article sous les yeux, parler au niveau médecine, avec cette découverte également qui a été faite de chercheurs américains qui ont mis au point une pompe capable de délivrer des médicaments de chimiothérapie directement dans le cerveau de patients atteints d'un cancer cérébral. C'est assez intéressant. Ce médicament s'appelle le topotecan. Il est administré et il est toxique pour les cellules cancéreuses, mais il est souvent inefficace à l'hôpital parce que la barrière du cerveau ne permet pas à toutes les molécules de pouvoir pénétrer à l'intérieur, y compris justement ces médicaments de chimiothérapie contre le cancer du cerveau. Alors, si on administre ce médicament par voie orale ou intraveineuse, eh bien, ces médicaments n'atteignent le cerveau qu'à de très faibles concentrations. Donc, ce n'est pas nécessairement totalement performant. Et la concentration de médicaments qui se retrouvent dans le cerveau, avec cette technique donc de pompe, elle est 1000 fois supérieure à celle que l'on peut obtenir par voie classique. C'est ce qu'explique Jeffrey Bruce, qui est professeur de recherche en chirurgie neurologique et qui est donc l'auteur principal de cette étude qui a été publiée dans la revue Lancet Oncology. La pompe peut rester en place pendant une longue période, de sorte que nous pouvons administrer des doses plus élevées de chimiothérapie dans le cerveau sans provoquer d'effets secondaires. Donc c'est ça qui est en fait totalement intéressant, c'est-à-dire qu'on cible au bon endroit et il n'y a pas de perte, il n'y a pas non plus de médicaments qui se baladent un peu partout dans le corps et qui peut atteindre d'autres cellules. Lors d'un essai clinique en phase précoce, il y a 5 patients atteints justement d'un cancer du cerveau qui ont reçu un total de 4 perfusions avec une alternance de jours d'activation et de désactivation de la pompe, et avec succès, le traitement a permis de diminuer le nombre de cellules cancéreuses en prolifération sans toucher les cellules saines. C'est ça qui est véritablement intéressant dans cette étude. Les chercheurs ne rapportent aucun événement indésirable grave lié au traitement justement de cette étude. En outre, les chercheurs estiment que ce nouveau mode d'administration pourrait transformer la prise en charge des patients atteints d'un cancer du cerveau dont les perspectives de survie restent très faibles. Toutefois, le nombre de patients inclus reste aussi très faible dans ce protocole expérimental. Il faut donc des essais supplémentaires qui vont être nécessaires chez les patients avec des tumeurs à un stade plus précoce et avec différents types de chimiothérapie pour pouvoir ensuite essayer de généraliser cette technologie. Mais en tout cas, voilà, ça a été annoncé par des chercheurs américains, cette pompe qui administre directement les médicaments de chimiothérapie dans le cerveau, ce qui améliore la performance et diminue les risques d'effets indésirables, bien évidemment. C'est aussi une information vraiment importante, bien sûr. Allez, on écoute Jaco sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Au pied des beaux palaces, aux alentours des gros bateaux, la foule en liesse se masse dans tous ses oripeaux. Moi, sous mon chapeau de paille et derrière mes Ray-Ban, je sirote un jus de papaye et rallume mon Havane. Again. Again. Sous le beau ciel d'azur, au nez des badauds crédules, des starlets en quête d'aventure exigent chiens qu'ont les adultes.
Bacane.
Voici déjà l'heure du grand soir et celle du code d'honneur. Pingouins trois pièces et robes du soir sont désormais de rigueur.
Bacane.
Devant les marches du palais au festival de Cannes, pour paraître les moins laids, les opulents se pavanent.
À Cannes.
Du show business, les vedettes gonflées d'honneur et d'espoir, qui font hurler les minettes, se bousculant pour les voir. Une horde de photographes hagards, armés de leurs réflexes, tentent de capter les regards qui les laisseront perplexes. La surenchère et la démesure de cet instant rare fera la prochaine couverture du numéro de ce soir.
À Cannes.
Palme d'or de la frime et de l'ivresse provisoire, les artistes en intérim montent les marches pour la gloire. Brandissant ma parure de badge, tel un trophée de guerre, je passe les contrôles d'usage et assure mes arrières. Ensuite, c'est la soirée de l'amour, petit four, champagne, gadget, rivalité, trahison, m'amour. Objectif, star d'un soir sans la croisette. Sans la croisette. Culte de la personnalité, poussé à l'extrême, finira sur papier glacé, magnifiant le blasphème. Culte de la personnalité, poussé à l'extrême, finira sur papier glacé, magnifiant le blasphème. Le blasphème. Vient s'agripper. Ok bébé, on va se lever dans un appart, un grand meublé. Après avoir bien rigolé, il est trop tard pour dormir. Tout juste le temps de prendre un café, indispensable pour repartir. La semaine passe à toute allure, relationnel, projection, marché du film, signature, me rapporteront beaucoup de pognon.
On peut se retrouver aussi sur Graphite à Cannes. C'était Jaco sur l'antenne de Graphite. Comme je vous parlais du cancer du cerveau avant ce titre de Jaco, j'ai retrouvé, il y a d'autres actualités qui parlent médecine et je me suis dit que c'était intéressant de faire peut-être une thématique. Cette fois, c'est au niveau du cancer du foie, avec le foie qui est un organe essentiel, bien sûr, au bon fonctionnement de l'organisme. Et le pronostic du cancer du foie est particulièrement sombre. Ce cancer touche plus de 10 000 nouvelles personnes chaque année en France. Et ça touche près de 80% d'hommes. Cette pathologie évolue souvent silencieusement, ce qui provoque un retard au diagnostic et une perte de chance pour le patient. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage organisé du cancer du foie. Il y a des échographies qui sont réalisées régulièrement chez les personnes à risque de développer la pathologie, c'est-à-dire les personnes ayant une maladie chronique du foie, donc une cirrhose, une hépatite virale. Cette stratégie permet d'améliorer la survie des patients, mais ça demeure perfectible, bien évidemment. Il y a une équipe de recherche qui propose en fait un test de dépistage du cancer du foie basé sur un prélèvement sanguin. Leurs travaux de validation du test ont été publiés dans la revue Cancer Discovery. C'est une étude qui a été menée aux États-Unis, dans l'Union européenne, mais également à Hong Kong. Il y a plus de 700 personnes qui ont participé à cette étude. Ces personnes étaient soit atteinte pardon, d'un cancer du foie de type carcinome, soit était à risque d'en développer un. Le carcinome du foie, c'est la forme la plus fréquente du cancer du foie, ça représente 90% des cas. Et donc des échantillons de plasma sanguin ont été récupérés chez ces personnes. Des millions de fragments d'ADN circulant ont été analysés et les tests de dépistage du cancer du foie mis au point par les auteurs ont montré une véritable sensibilité et des résultats vraiment performants chez les personnes à risque et chez les personnes à risque, enfin à risque moyen et à haut risque. Les résultats sont vraiment très importants. Je vous épargne les chiffres, mais en tout cas, on est sur une sensibilité d'un test qui permet justement d'avoir une capacité à détecter la maladie directement chez les sujets concernés. La spécificité est justement de pouvoir détecter aussi l'absence de maladie chez les sujets sains. Les résultats ont été confirmés dans une population indépendante. Il y a toujours un groupe témoin dans ce genre de dispositif. Le test mis au point par les auteurs, ça présente l'énorme avantage d'être non-invasif parce qu'on est sur un prélèvement sanguin. Et c'est simple à mettre en œuvre à grande échelle. C'est un atout de poids quand on sait que l'incidence des cancers du foie ne cesse de croître. En effet, le principal facteur de risque de ce cancer, c'est la consommation d'alcool, bien évidemment. Habituellement masculine, cette consommation d'alcool, ce qui explique donc une prédominance chez les hommes. Mais cette tendance s'efface peu à peu, nous dit-on. Le nombre de cancers du foie chez les hommes ne diminue pas, tandis que le nombre de cancers du foie chez les femmes augmente, et augmente même beaucoup, bien que le premier moyen de lutte contre le cancer du foie soit la prévention, et bien ces nouvelles données apportent une lueur d'espoir dans cette pathologie particulièrement meurtrière. Et donc le dépistage du cancer du foie serait bientôt possible grâce à un test sanguin. C'est une véritable avancée totalement intéressante, bien sûr. Autre chose au niveau de la santé, c'est la consommation de médicaments de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est dangereux pour le foie. Eh bien, ces médicaments pour traiter l'arthrose pourraient présenter des effets contre-productifs. D'après une nouvelle étude qui a été présentée lors de la réunion de la Société de radiologie nord-américaine, eh bien, l'utilisation d'ibuprofène ou de naproxène aggraverait l'inflammation de l'articulation du genou. Alors, les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens sont couramment prescrits pour traiter la douleur et l'inflammation liée à l'arthrose. Et on ne connaît pas encore les effets à long terme de ces médicaments sur la progression de la maladie. Et l'objectif de cette étude a été double. C'était analyser l'association entre l'administration de ces médicaments et l'inflammation au niveau du genou et d'évaluer comment le traitement par ces médicaments affecte la structure de l'articulation au fil du temps. C'est ça qui est intéressant. Et les participants, ils étaient à peu près 270 qui souffrent d'arthrose du genou modérée à sévère et qui sont traités avec ce type d'analgésique pendant au moins un an entre le début de l'étude et le suivi de 4 ans. Donc on est vraiment sur une période quand même assez longue, c'est ça qui est intéressant. Les résultats ont été comparés avec ceux obtenus par les personnes qui ne prennent pas d'anti-inflammatoires. Et les chercheurs n'ont trouvé aucun avantage structurel de l'utilisation de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens à long terme chez les personnes atteintes d'arthrose. Pire, l'inflammation articulaire et la qualité du cartilage se sont aggravé au fil du temps. Enfin, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que ces médicaments qui finalement seraient, enfin, qui étaient au départ prévus pour soulager, améliorer, auraient plutôt un effet inverse. Johanna Luijgen, qui est donc chercheuse au département de radiologie et d'imagerie biomédicale à l'Université de Californie, a émis deux hypothèses qui peuvent peut-être expliquer ce phénomène. D'une part, dit-elle, l'effet anti-inflammatoire qui découle normalement de ces médicaments ne peut ne pas prévenir efficacement la synovite. Alors la synovite, c'est l'inflammation au niveau de l'articulation. Et les changements dégénératifs progressifs entraînent une aggravation de cette inflammation au fil du temps. Et puis d'autre part, les patients atteints de cette synovite et qui prennent des médicaments antidouleurs peuvent être physiquement plus actif en raison du soulagement de la douleur, ce qui pourrait potentiellement conduire à une aggravation justement de cette inflammation de l'articulation, bien que nous ayons ajusté l'activité physique dans notre modèle. Ce qui veut dire que quelque part, comme il se sentait un petit peu mieux, il forçait un petit peu plus sans s'en rendre compte. Bref, il n'existe toutefois pas encore de certitude, parce que cette recherche qui doit, comment dire, être confirmée. Elle présente des limites parce qu'il n'y a quand même pas assez de personnes qui ont participé. Il y en a eu 270, ce qui est encore trop peu pour pouvoir avoir des conclusions définitives. Mais bon, ça permet quand même d'avoir des pistes et d'investiguer des nouvelles pistes assez intéressantes dans ce domaine-là. Mais voilà, les anti-inflammatoires pourraient aggraver l'arthrose. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore précisément bien étudié. Étudier, en tout cas bien anticipé par ailleurs. À voir évidemment par la suite, je pense qu'on aura la possibilité de pouvoir être informé des suites qui seront données par cette étude, bien évidemment. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, c'est de l'actualité un peu lourde, hein, je sais pas. Pour cette fin d'année, oh là là, je plombe l'ambiance, je suis désolé, mais bon, vous voyez, enfin, je plombe l'ambiance, oui et non. C'est-à-dire que quelque part, le fait d'avoir des informations nous permet de réajuster aussi les travaux de recherche. Donc, plus on a d'informations, mieux c'est, même si cette information n'est pas toujours réjouissante. C'est comme ça, c'est la science, que voulez-vous. Allez, on écoute Fabrice Mauss sur l'antenne de Graphite.
À la recherche du bonheur et tout ce qui va avec, du nom, d'une humeur, d'un cavalier sans tête. Est-ce que tu crois qu'il nous voit ? J'ai les pieds qui s'enfoncent toujours dans la panade, les jambes qui tremblent, mon cœur bat la chamade. Ralentis, ralentis. Ralentis, c'est la vie. La la la. La la la. La la la. C'est l'histoire d'un message gravé sur ma peau, comme un tatouage qui vous laisse encore un mot. Encore un mot. J'en ai dansé des valses, des slows et des tangos, des quarts d'heure américains jusqu'au premier métro. La nuit, ma belle amie, c'est la vie. La la la, la la la, la la la, c'est la vie. La la la, la la la, la la la. J'en ai vu des danseuses jouer les Marilyn, vous chanter une berceuse et finir en déprime. Deux pieds sur un fil. Moi j'en ai lu des poèmes, des fables et des serments. Des combien je t'aime et puis combien tu prends. Tout se vend, tout se vend. Oui, tout se vend, c'est la vie. La la la. Des pas de fourmis, des lumières qu'on prend pour un ovni. C'est juste un oubli. Pour le meilleur, pour le pire, juré pour la vie. Y'a moins de risques à se dire oui pour la nuit. Et moi, j'ai dit oui. Oui, 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 c'est la vie. La la la. La la la. La la la.
C'est la vie, Fabrice Mauss sur l'antenne de Graphite. Allez, pour finir cette dernière partie de cette dernière émission de cette année, l'émission de Biotine, j'ai trouvé des informations un petit peu plus réjouissantes, bien sûr. La première, c'est la découverte sur la côte par un particulier dans des conditions qui ne sont pas encore explicitées dans le communiqué de presse officiel. La découverte d'une pièce en or qui étonne autant qu'elle questionne, parce qu'elle a été frappée entre 1422 et 1427. Or, la date d'arrivée des Anglais est postérieure. Il faut dire que dans le passé, la région habitée par des natifs avait déjà été visitée, en particulier par les Vikings, qui ont installé des campements temporaires. Et nous sommes au niveau du Canada. J'ai oublié de dire où est-ce qu'on était. On est au Canada. Et on a donc découvert une pièce en or qui date avant l'arrivée de Christophe Colomb. En 1497, le navigateur Jean Cabot, d'origine vénitienne, arrive dans la région. Il travaille à l'époque pour le roi d'Angleterre, Henri VII. Et son arrivée marque l'histoire des explorations locales. Les décennies suivantes, il y a d'autres occidentaux qui vont naviguer dans la région, qui vont pousser toujours plus loin la croissance et la connaissance de la zone au cours du XVIe siècle. Mais au contraire des Vikings et de leur camp temporaire, eh bien, ces derniers décident de s'installer de façon durable, ce qui aura des répercussions sur les populations natives. Il faut dire que les eaux locales étaient considérées comme très attrayantes, puisqu'elles rengorgeaient de grands bancs de morues, ainsi que des baleines à pêcher. Il y avait autant d'arguments qui motivaient les pêcheurs occidentaux à traverser l'Atlantique pour profiter de ces eaux poissonneuses. Il y avait d'une part les étrangers qui décidaient de vivre sur place, et d'autre part les pêcheurs qui restaient uniquement le temps de la saison de pêche, un voyage à risque dont beaucoup ne revenaient jamais. C'est la question qui intrigue les spécialistes de la région. Et donc, l'année dernière, il y a une pièce d'argent frappée entre 1497 et 1499 qui a été découverte sur le site historique de Cupid's Cove Plantation. C'est un site qui remonte à 1610. L'hypothèse d'une pièce gardée sur plusieurs générations et perdue par un des colons sur le site reste privilégiée à l'heure actuelle par les archéologues. Autant que ce site-là de Cupid's Cove Plantation, il y a un contexte particulier parce que des fouilles archéologiques sont entreprise depuis à peu près une trentaine d'années. Et autant pour cette nouvelle pièce en or, eh bien, on ne sait presque rien de l'environnement de sa découverte. Il n'y a aucune information précise qui n'a circulé sur l'emplacement l'endroit où cette pièce de monnaie a été trouvée. Et bien que l'on sache pour l'heure qu'il s'agit d'une trouvaille faite sur les côtes canadiennes, et aucune information qui a été donnée dans le communiqué de presse. Une décision prise, bien sûr, pour essayer de limiter des possibles recherches illégales et surtout pour permettre d'envisager de prochains sondages et d'éventuelles fouilles du lieu à l'avenir. Pour l'heure, les archéologues et les historiens locaux ne peuvent se prononcer sur les raisons de la présence d'une telle pièce, si ce n'est qu'elle n'était probablement pas en circulation quand elle a été manifestement perdue. La chronologie donc de l'arrivée des Occidentaux au Canada reste un sujet assez sensible dans les cercles de recherche, et l'archéologie permet petit à petit de mieux comprendre les événements et les mouvements de population des colons sur place. Une recherche archéologique qui est également utile pour mieux comprendre les échanges et les rapports avec les natifs à cette époque. Mais donc voilà, la découverte de la plus ancienne monnaie en or d'origine anglaise a donc été annoncée il y a quelques jours au Canada. Et une nouvelle qui donc interroge les historiens du Canada et qui pose un petit peu question avec cette nouvelle date d'arrivée anglaise au Canada, ou est-ce que c'est juste une perte d'une pièce par un colon qui était un petit peu tête en l'air. On n'en sait rien, mais voilà, on a découvert ça. Autre chose, c'est ça se passe chez nous. La brigade et le commissariat en 2030 ne ressembleront en rien à ceux d'aujourd'hui, ce qui vaut en particulier pour les espaces d'accueil. Il s'agira de généraliser la prise de rendez-vous en ligne, d'accentuer le déploiement de bornes d'accueil, la diffusion vidéo de contenu pour optimiser les temps d'attente. L'utilisation d'un robot d'accueil va même être expérimentée dans certains territoires. C'est le point 148 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui a été adopté par le Sénat il y a quelques jours. Alors que ce projet de loi est actuellement examiné par l'Assemblée nationale, eh bien c'est un point particulier sur la modernisation de l'accueil au poste de police qui interpelle, parce que l'idée c'est de savoir si on aura donc des robots dans les commissariats en 2030. Alors, ces robots d'accueil seront chargés de prendre les plaintes liées au vol sans violence, selon les informations de BFM TV. Et a priori, l'image du robot humanoïde est à écarter. C'est en tout cas ce qu'il ressort des discussions sur ce point particulier lors des débats qui ont été menés début novembre à l'Assemblée nationale. Parce qu'on s'inquiétait un peu du côté déshumanisé d'une telle machine face à des victimes qui recherchent un lien humain et de la confiance. Et alors, le rapporteur de ce projet de loi, leur avait répondu qu'il ne s'agirait pas de remplacer une chose par une autre, mais de compléter l'existant, c'est-à-dire le dépôt de plaintes dématérialisées. Il n'en reste pas moins que la formulation l'interroge, bien sûr, parce que ça reste très vague pour l'instant. En attendant, le ministère parle de réaliser des expérimentations en ce sens. Il pourrait par exemple simplement s'agir d'une borne d'accueil diffusant des informations personnalisées sur les droits des victimes en attente pour un dépôt de plainte en commissariat. Mais voilà, peut-être bientôt des robots en commissariat. Voilà, c'est ça. C'est l'avenir, que voulez-vous. C'est comme ça que ça se passe aussi. Autre information, c'est un peu de musique et ça fait du bien. Les humains ne sont pas les seuls à battre la mesure quand ils écoutent de la musique. On a découvert que les rats le faisaient aussi, même si leur mouvement était moins perceptible. C'est une étude japonaise qui a été publié il y a quelques jours dans la revue Science Advances. Des rats qui n'avaient jamais été exposés à de la musique ont ainsi fait preuve d'une synchronisation avec des morceaux joués, soit à peu près... on a utilisé des morceaux qui sont également celles qu'utilisent les humains, c'est-à-dire 120 à 140 battements par minute. C'est une fréquence de rythme à laquelle les humains réagissent généralement. Ce sont des chercheurs de l'Université de Tokyo qui ont travaillé sur ce sujet-là. Le cerveau des rats est conçu pour bien réagir à la musique, même si leur corps ne bouge pas trop. C'est ce qu'a donc déclaré à l'AFP Hirokazu Takahashi, un scientifique ayant participé à cette étude. C'est pourquoi les chercheurs japonais utilisaient des accéléromètres, c'est-à-dire des capteurs, pour pouvoir mesurer les vibrations des rongeurs. Et nous pensons tous que la musique a des pouvoirs magiques, mais nous ne savons rien de ces mécanismes. Donc nous voulions découvrir quel type de connexion sonore plaise au cerveau sans l'influence de l'émotion ou de la mémoire. C'est ce qu'il a expliqué. Alors la réaction des rats a été testée avec plusieurs morceaux, dont la sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart, mais aussi des chansons un petit peu pop qui ont été utilisées. Born This Way de Lady Gaga, Another One Bites the Dust du groupe Queen, ou alors Beat It de Michael Jackson. Et selon les chercheurs japonais, eh bien, les résultats de leur étude vont dans le sens de l'hypothèse de l'existence d'un tempo optimal pour la synchronisation des battements qui serait commun de nombreuses espèces. Une autre hypothèse considère aussi que ce tempo optimal varie d'une espèce à l'autre en fonction de nombreux facteurs physiologiques comme la taille et le poids de l'animal par rapport à l'homme, bien sûr. Bref, si la musique agit sur les émotions, ben ce serait vraiment très intéressant d'être capable de l'observer sur des animaux. À suivre donc. Mais les rats bougent aussi en rythme sur la musique, nous dit-on. Il y a des vidéos qui existent sur Internet et que vous pouvez trouver pour illustrer, bien sûr, cet article. Et puis on termine avec cette dernière information. C'est bientôt Noël, donc peut-être que vous allez offrir des cadeaux et notamment des casques virtuels pour les jeux vidéo. Eh bien, il y en a un que vous allez peut-être bientôt pouvoir utiliser parce que ça va vous permet de rendre le jeu un petit peu plus excitant. C'est Palmer Luckey, qui est le fondateur d'Oculus, qui a décidé justement de concevoir un casque de réalité virtuelle qui comporte des charges explosives capables de tuer son porteur s'il meurt dans un jeu. C'est-à-dire que si tu meurs dans le jeu vidéo, bah tu meurs pour de vrai. Pour lui, la façon de jouer s'en trouve forcément impactée car seules des conséquences graves peuvent donner du réalisme au jeu. Dans les explications d'une publication sur son blog, eh bien Palmer Luckey explique, il souligne que cette tension vitale permet au joueur de repenser totalement la façon dont il interagit avec le monde virtuel. Alors c'est pas la première fois que Palmer Luckey évoque des jeux qui pourraient engendrer des blessures réelles, voire la mort, mais cette fois, l'informaticien qui est considéré comme l'un des pères de la réalité virtuelle, il a créé le prototype d'un véritable casque de réalité virtuelle potentiellement létal. Alors pour son casque, il s'est inspiré d'un casque de réalité virtuelle capable de griller à coups de micro-ondes le cerveau des joueurs. C'est dans la saga du manga Sword Art Online, si vous connaissez peut-être. Bref, c'est l'idée justement d'avoir un casque qui permet de griller le cerveau. Alors pour l'instant, seule la partie qui tue est opérationnelle. Les charges explosives sont intégrées dans le casque et elles sont connectées à une espèce de capteur qui peut détecter quand l'écran clignote en rouge à une fréquence spécifique, ce qui indique en fait la mort de l'avatar et donc la mort du joueur. Mais d'un autre côté, eh bien, c'est sur la partie réalité virtuelle que les développeurs patinent ou alors peut-être qu'ils freinent volontairement. En attendant eh bien, la finalisation de ce casque, eh bien, l'inventeur a avoué n'avoir pas encore eu le courage de l'essayer. On le comprend bien évidemment. Ce qui est d'autant plus inquiétant parce que ce créateur de casque Oculus, Palmer Luckey, il travaille désormais pour l'industrie de la défense. Et ça, ça n'a rien de virtuel. Donc effectivement, si on met en place des casques réalité virtuelle qui sont capables de vous cramer le cerveau, peut-être qu'il peut y avoir des applications militaires dont on ne souhaite pas du tout savoir ce qui se passe. Voilà, c'était Biotine, l'émission de l'actualité scientifique tous les samedis sur l'antenne de Graphite. J'étais très heureux de vous avoir accompagné pendant cette année 2022. Écoutez, on se retrouve l'année prochaine en 2023. Je vais prendre des petites vacances et je vous retrouve de mémoire, je crois, c'est le 7 janvier 2022 pour une nouvelle année 2023 qui sera encore passionnante au niveau de l'actualité scientifique. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt, merci, au revoir.